Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
C'est la rentrée de la librairie francophone après nous avoir suivis tout l'été avec la librairie francophone estivale. Sur la RTS, la RTBF, Radio-Canada, France Inter et RFI, nous voici de retour avec une nouvelle saison de la librairie classique. Et nous sommes en public en Suisse à Morges au festival Le Livre sur les quais. Le public est nombreux comme tous les ans. Bonjour à tous, bonjour Morges. Ah ouais, ambiance. Incroyable, merci à vous. Le programme est chargé, vous allez l'entendre. Il y aura des surprises tout au long de cette émission sur ce plateau de la RTS au bord du lac Léman. Vous allez découvrir un auteur japonais francophile qui a un parcours et une histoire extraordinaire. Bonjour Akira Mizubayashi.
Bonjour.
Vous arrivez donc du Japon, vous pouvez l'applaudir. Vous êtes là pour nous, Akira. Vous écrivez en français, publié par les éditions Gallimard. Vous avez décidé d'adopter la langue française au détriment du japonais. Vous nous expliquerez comment et pourquoi tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un mot de la langue française que vous aimez en particulier ?
Alors, j'aime bien le mot « transparence ».
Ah, c'est pas mal, ça. La transparence.
Transparence. Voilà. C'est la clarté, la c'est lumière. La clarté.
Comme la technique de la librairie francophone.
Voilà.
Transparence.
Pas de mensonges.
On a des petits problèmes comme ça, mais vous allez voir, vous n'allez rien entendre. C'est une grande auteure belge qui va arriver sur notre plateau dans quelques minutes. Une femme passionnée par le Japon, fascinée par la culture japonaise. Amélie Nothomb fait sa rentrée dans la librairie francophone dans son traditionnel nouveau roman de septembre. Et puis, nous serons avec une jeune écrivaine suisse qui publie son premier roman et avec un auteur qui a connu un immense succès lors de la rentrée littéraire, mais c'était en 2013.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Quelle joie de retrouver notre équipe de libraires. Quatre libraires sont donc en multiplex à travers la francophonie. Des petits problèmes de liaison, je vous le disais, mais nous avons notre petite fée belge, courageuse et pétillante. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous ?
Mais je suis contente d'être là avec vous tous.
On est ravis de vous entendre à nouveau. Vous êtes libraire dans la librairie La Licorne à Bruxelles. Mathieu Colombe représente la France. C'est le plus tatoué des libraires d'Aix-en-Provence. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel. C'est pas vrai, c'est pas moi.
Comment ça, c'est pas vous aussi ? Tatoué et directeur de la librairie Goulard quand même.
Ah oui, c'est vrai, mais je suis pas le plus tatoué.
D'accord. Bon, on va pas vérifier. Elle a fait ses débuts dans l'émission en fin de saison dernière. Elle revient pour cette saison, c'est Marie-Noëlle Blé, libraire à Montréal, dans la librairie Raffin. Bonjour Marie-Noëlle.
Bonjour Emmanuel.
La rentrée se passe bien au Canada ?
Doucement, fraîchement, mais bien.
Fraîchement, déjà fraîchement. En plateau avec nous, c'est Claire oui. Renaud de la librairie Atmosphère à Genève. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel.
Faites rêver les auditeurs qui nous écoutent à travers le monde. Décrivez-nous ce que vous voyez là, autour et devant vous.
Je vois un magnifique public, très sympathique. Et puis surtout, nos magnifiques montagnes et notre lac qui est juste unique.
Voilà, qui est juste à portée de main. Hein.
Voilà, juste à côté. On peut se baigner si jamais.
Oui, pas tout de suite. Merci beaucoup, merci à vous. Et il paraît que l'été est la saison la plus propice pour monter des meubles, aménager maisons et appartements. Les meubles, c'est l'un des thèmes aujourd'hui, vous allez vite comprendre. Première surprise de cette émission de rentrée, il a vendu plus d'1,5 million de son roman « L'extraordinaire voyage du fakir » resté coincé dans une armoire Ikea, traduit en 38 langues. Le livre est adapté au cinéma par le réalisateur québécois Ken Scott, connu pour son film « Starbuck », film absolument génial, et je ne dis pas ça parce que c'est mon film préféré ou presque. Bonjour Romain Puertolas.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous, on peut vous applaudir. Merci de nous faire cette surprise. Vous êtes avec nous en cette rentrée littéraire car vous publiez un roman pour la jeunesse aux éditions suisses, La Joie de Lire. On commence toujours cette émission par une histoire, une anecdote personnelle. Alors justement, j'avais envie de vous demander comment vous avez vécu, vous, la rentrée 2013, quand vous êtes arrivé avec ce bouquin et que vous avez eu ce succès considérable. Vous avez un souvenir en particulier ?
Un souvenir, c'est pas un souvenir, c'est quelque chose qui a bouleversé ma vie, qui s'est produit un peu avant la rentrée littéraire. La rentrée littéraire, généralement, on la met vers septembre, hein, puisque c'est là que sortent les livres. Mon livre est sorti en août, mais on avait déjà vendu dans 30 pays étrangers en juin. Donc c'est une histoire qui a commencé un peu avant la sortie. Pour moi, tout est merveilleux jusqu'à aujourd'hui. Tout ça, c'est un grand souvenir jusqu'à maintenant.
Avec, juste avant l'été encore, vous avez publié tout un été sans Facebook. Voilà. Au dilettante. Comment ça s'est passé votre été ? Sans Facebook ou...
Bah, très bien. Non, un petit peu de Facebook quand même.
Ah,
C'est pour l'héroïne du livre. Il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de couverture, il n'y a rien du tout.
Je vous rappelle que vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les infos de l'émission sur la page Facebook Emmanuel Kérad, si vous voulez avoir plus d'infos. Votre nouveau roman, Romain Puertola, s'est paru chez un éditeur suisse.
Oui.
Et il s'adresse principalement aux ados, mais les adultes peuvent le lire aisément.
Oui.
Il y a une référence à Ikea encore. Qu'est-ce que vous avez avec les meubles et avec Ikea, Romain Puertola?
Ça me fait rire, je sais pas. Ça me fait rire. Pourtant,
Ikea,
ils sont méchants avec moi.
Hein. Ah ouais, ouais.
Ils sont méchants. Ils nous ont pas donné l'autorisation de tourner le film chez eux.
Ah oui.
Ils nous ont fait suer avec le livre pour la couverture, les couleurs et compagnie. Donc vraiment, ils sont pas très contents. J'en remets une nouvelle couche puisque je sors la suite du Fakir l'année prochaine.
Ah oui.
Donc là, je leur en mets encore une couche. mais voilà, ils me font rire. Et puis c'est surtout parce qu'IKEA est une référence actuelle. Et moi, j'aime beaucoup m'ancrer dans la réalité. C'est pour ça que je cite énormément de marques. Et donc dans mon nouveau livre, le détective très spécial avec trois traits.
Oui, c'est ça.
Effectivement, il y a une petite chose sur Ikea, sur la quatrième de couverture.
Et pas que sur la quatrième, à l'intérieur aussi.
Oui, aussi ouais. À l'intérieur, oui.
Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme, Gaspard, un jeune trisomique de 30 ans qui vend des souvenirs de Paris à Montmartre. Mais il aime les défis et il a un atout, il a un odorat exceptionnel.
Ouais. D'ailleurs, il est renifleur des selles. J'ai trouvé, c'est une profession qui existe.
Mais oui, ça existe. Oui, pour les déodorants.
Pour les déodorants, voilà. Ben, y a des gens qui lèvent les bras, on leur met du déodorant pour les tester. Puis il y a des personnes qui reniflent, qui mettent vraiment le nez sous les aisselles. Donc,
c'est votre fantasme, ça, Romain.
C'est mon fantasme.
Il lève les bras, d'ailleurs.
Je suis fétichiste des aisselles propres.
Ça existe.
Bon,
je sais pas si elle est fétichiste des aisselles, mais en tout cas, elle a lu votre roman. C'est Claire Renaud qui est juste face à vous, notre libraire suisse. Ah. Et elle en a pensé quoi, Claire?
Vous nous emportez dès le début de votre roman et vous nous faites aimer en deux temps trois mouvements ce récit très bien construit avec un rebondissement hors pair. En fait, votre livre est un cadeau littéraire destiné aux lecteurs de tout âge. 137 pages de bonheur. Encore merci et bravo.
Oh, merci beaucoup.
Écoutez, quelle présentation. C'est pas mal. Quelle présentation. Vous pouvez applaudir Romain Puertolas avec ce personnage qui découvre énormément de choses en allant sur Internet, notamment que les patrons des grosses entreprises ont été des sportifs accomplis, comme le créateur d'IKEA. On y revient toujours, vous êtes complètement fous. Il découvre aussi que Michael Jackson n'a pas inventé le moonwalk. Et en regardant Starsky et Hutch, vous vous souvenez de Starsky et Hutch tous? Oui, tout le monde acquiesce, même les plus jeunes, dis donc. Il a l'idée de devenir détective privé.
Ouais. Ça, c'est un peu biographique. Hein. Effectivement, quand j'étais jeune, quand j'avais entre 12-13 ans, je voulais être inspecteur de police. D'ailleurs, je le suis. Hein. Je suis lieutenant, je suis capitaine de police. J'ai réussi à faire ça. Et donc, c'était grâce à Starsky Hutch et Columbo. Voilà. Je voulais le côté action de Starsky Hutch et le côté très intellectuel de Columbo.
Vous êtes entre les deux, ouais. entre les trois.
Entre les deux.
Plutôt Hutch, hein, moi, je dirais, en vous regardant.
Hutch, voilà, quand j'étais petit, comme j'étais plus blond, j'étais blond,
ouais,
j'étais blond donc
bleu.
J'étais Hutch, ouais.
On va découvrir que ce jeune homme vit dans un monde parallèle. On ne va pas en dire plus, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il a gardé une âme d'enfant. Mmh. Et c'est ça qui lui permet de supporter sa différence.
Oui, exactement. Dans tous mes livres, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer que ce qui peut être une différence et, ou que certaines personnes peuvent considérer comme une faiblesse, ou en fait, c'est une force. Il faut toujours l'exploiter. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Dans les livres, il y a toujours ce message-là de la différence qui est une force et non pas une faiblesse.
Un détective très, très, très spécial aux éditions La Joie de Lire. Merci Romain Puertolas, vous pouvez l'applaudir. Le film... adapté de votre roman Le Fakir resté coincé dans une armoire IKEA sortira au printemps 2018, c'est toujours ça?
Il est prévu au printemps 2018, ils sont en train de monter là à Montréal en ce moment.
On va parler de meubles, vous restez avec nous?
Ah ben, oui, bien sûr.
On va pas se priver. Et bonjour Céline Zuffray.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes une jeune auteure suisse. Vous publiez votre premier roman, Sauver les meubles, aux éditions Gallimard. Alors votre livre ne fera pas l'unanimité pour plusieurs raisons que nous allons évoquer. Avant de parler des meubles, parlons relations sexuelles, puisque votre narrateur va sur des sites de rencontres et de discussions en ligne. Les échanges sont souvent basiquement vulgaires, caricaturaux, je dirais. Vous êtes allé, vous, sur les sites de rencontres? C'est vraiment comme ça que ça se passe?
Alors, j'ai pas voulu situer les chats sur des sites de rencontres, c'était plus des sites de chat en général. Mais évidemment, j'ai dû me documenter. Moi, j'aime beaucoup me documenter quand j'écris des textes. C'est un peu une espèce d'excuse aussi pour aller découvrir d'autres choses. Mmh. Donc là, effectivement, j'ai été voir des sites. Je me suis connectée en tant qu'homme, en tant que femme pour voir un peu comment ça se passait des deux côtés.
Alors vous montrez qu'Internet, qui nous relie à tout le monde, a priori, accentue en fait la solitude jusqu'à changer nos rapports et fantasmes sexuels.
Oui, alors Internet, c'est vraiment un endroit où on peut être tout et n'importe quoi, on peut vraiment choisir, etc. Et c'était aussi cette espèce de schizophrénie aussi qui m'intéressait, du fait qu'on choisisse plusieurs identités et finalement on parle à beaucoup de gens mais qui restent sur des écrans. Donc, donc c'est un peu un dialogue avec soi-même finalement.
Alors revenons à votre personnage, le narrateur, 32 ans, est artiste photographe, mais il doit, pour pouvoir vivre et surtout payer la maison de retraite de son père, faire un travail alimentaire. Alors il va se retrouver à photographier des meubles et des scènes de la vie familiale dans des catalogues.
Oui, alors ce qui m'intéressait, c'était de montrer l'envers du décor, en fait. Comment une photo qu'on voit dans la rue d'une famille dans une cuisine, comment est-ce que ça avait été pris, pourquoi est-ce que ça avait été pris comme ça, etc.
Ouais, c'est vrai que les objets, finalement, ces meubles-là qui comblent les vides des maisons, ils comblent aussi nos propres vides, parce que c'est solide un meuble, c'est rassurant.
Oui, et puis maintenant, avec toutes les différentes collections, etc., les meubles, c'est un peu un reflet de notre personnalité. On peut s'exprimer à travers les meubles comme on s'exprimerait à travers nos vêtements.
Vous dites que les objets nous dévoilent.
Oui, je pense que la maison ou l'appartement en général, la manière de l'aménager, de le tenir... Les meubles qu'on choisit ou un meuble qu'on ne réparerait pas, par exemple, ça dévoile notre personnalité, etc.
Qu'est-ce qu'il en pense, le spécialiste d'IKEA, Romain Puertolas?
Je n'ai pas fait le jeu de mots quand vous avez parlé des relations sexuelles avec le meuble. Là, c'était une bonne transition. On aurait pu dire que ça s'emboîte ou ça ne s'emboîte pas. Quelquefois, ça ne s'emboîte pas. Non, mais c'est vrai, oui, les meubles en disent beaucoup sur sur les personnes. D'ailleurs, moi, j'ai plus d'IKEA à la maison. Voilà. Moi, j'ai des meubles intégrés complètement au mur.
Après s'en être servi d'IKEA, maintenant, vous reniez.
Exactement.
Quelle honte.
Ah, mais ils ne sont pas gentils avec moi.
Bon, on va saluer Amélie Nothomb qui vient de nous rejoindre très discrètement. Bonjour Amélie. Merci beaucoup d'être avec nous Amélie. On va parler de votre livre tout à l'heure, mais voilà, je sais que tout le monde vous observe comme ça, vous êtes arrivé très discrètement, mais je voulais souligner votre présence. Merci d'être avec nous. On va laisser la place aux libraires, Céline. Vous savez qu'il y a des libraires qui vous attaquent, qui vous adorent, ça dépend.
Allons-y.
Je suis toute stressée. On va commencer avec le Canada et Marie-Noël Blé, d'accord? Allons-y, Marie-Noël, qu'avez-vous pensé de ce premier roman?
Alors moi, j'ai adoré le ton sarcastique à souhait, la critique sans concession dans ce décor aseptisé de meubles à monter soi-même. J'ai aussi beaucoup aimé la réflexion sur la représentation des objets de consommation, donc le bonheur mimé à des fins commerciales, tout ça dans un style qui mêle habilement critique sociale et réclame publicitaire. Une très belle découverte, aussi agréable qu'impitoyable.
Oui, impitoyable. Déborah, pour la Belgique, êtes-vous d'accord?
Mais plutôt oui. Mais moi, ce qui m'a semblé vraiment formidable dans votre roman, parce que je trouve que ce n'est pas si courant, eh bien, c'est votre absolue maîtrise de l'ellipse. Ne le prenez pas mal, parce que c'est vraiment un compliment de ma part, mais je trouve qu'il y a presque plus dans vos non-dits que dans vos mots, et c'est vraiment impressionnant. Alors, en revanche, moi, je suis un peu plus mitigée, c'est peut-être le revers, d'ailleurs, de cette médaille, mais j'ai trouvé parfois que vos personnages et vos situations étaient un peu froides, comme désincarnés.
Désincarné, en tout cas votre personnage, il sait où il va rencontrer une Nathalie et il dira « J'ai été tenté par la vie qu'on met en scène dans les pages de notre catalogue ». Parce que c'est ça, quand on voit ces catalogues avec ses familles, notamment dans les catalogues Ikea, Romain Puertolas, on se retrouve avec des...
J'ai l'impression d'être le représentant.
On est confronté comme ça au modèle social.
Oui, la publicité et le marketing transmettent beaucoup de valeurs qui sont implicites en fait. C'est ça aussi qui m'intéressait. Quand on voit une image d'une famille dans une cuisine, on a tout de suite des valeurs qui viennent et on se dit « Ah, si j'achète cette table, moi aussi je serai heureux, moi aussi j'aurai une famille qui communique, etc. autour d'un dîner du soir idyllique.
» Vous aimez les meubles, vous, Amélie Nothomb?
J'ai pas de meubles chez moi. J'ai un très grand appartement totalement dépourvu de meubles.
C'est vrai?
C'est vrai.
Même pas une table, si, quand même.
J'ai pas de table.
Ah bon?
J'ai trouvé un beau tabouret dans les poubelles de Paris et il y a un tabouret, c'est tout, j'écris sur le tabouret.
C'est vrai?
C'est la vérité.
Vous avez un lit quand même?
Pardon?
Un lit pour dormir, vous
ah,
savez.
Mais oui, mais un lit n'est pas un meuble.
Ah, parfois oui, il y a de très beaux lits. Demandez à Romain, à Puertolas, qui connaît par cœur les lits d'IKEA.
Un lit, c'est un amoureux et c'est souvent l'amoureux qui vous comprend le plus quand, au terme d'une journée harassante, vous allez le retrouver.
Bon, Céline, on va pas tout raconter sur votre roman, mais c'est vrai que votre personnage va finir par photographier pour un site pornographique. Vous allez très loin dans la sexualité. Je sais pas ce qui vous a pris, mais vous vous lâchez complètement.
Disons qu'au niveau du marketing, la pornographie m'intéressait aussi, mais je trouve qu'il y a des liens à faire entre le marketing et la pornographie. C'est des corps qui sont utilisés pour vendre des choses et c'est des corps qui véhiculent aussi. Il y a autant de clichés dans la pornographie que dans le marketing finalement.
Sauver les meubles de Céline Zuffray, que vous pouvez applaudir ici à Morges. Paru chez Gallimard dans la collection Blanche. Rien que ça, Céline. Félicitations. On vous souhaite en tout cas une longue route.
Hein ? Merci beaucoup.
Bonne chance pour la suite. Merci Romain Portelas. On vous libère. Vous avez une signature ? Merci. Vous voulez rester ? Vous faites quoi ?
Oui. Oh, ben, je reste un petit peu.
Allez, restez un petit peu. À suivre donc Amélie Nothon sur notre plateau ici à Morges avec le public du livre Sur les quais pour son nouveau roman. Elle est déjà numéro un des ventes. Nous allons parler de la jalousie et puis une deuxième surprise avec un petit jeu autour d'un module sonore estival. Voici pour l'heure le nouveau titre de Laurent Voulzy qui vous emmène dans la chaleur du Brésil. Laurent Voulzy avec Spirit of Samba sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Et pour la première fois dans la librairie francophone, nous avons organisé un petit jeu pour le public présent ici à Morges et pour vous qui nous écoutez. La librairie francophone estivale vous a accompagné tout l'été. Vous pouvez d'ailleurs écouter les 9 émissions en podcast sur Internet si vous en avez manqué. Et pour vous donner un avant-goût, nous avons compilé un florilège d'interventions de personnalités qui ont participé à ce programme. Il y en a 6 à reconnaître. Et si dans le public vous trouvez, eh bien vous gagnerez un livre choisi dans notre sélection de la rentrée littéraire. Voici donc quelques moments loufoques piochés dans la librairie francophone estivale. Qui parle ? À vous donc de deviner.
Vous êtes à la fois précoce, brillant et populaire. Oui. Et comme vous êtes modeste, vous ne pouvez pas réagir à ces compliments.
Voilà. Ouais. Silence.
Silence. Mais c'est vrai, c'est ça. Alors pour compenser, il y a les bacheliers du bac 2015 en France qui vous ont durement attaqué. Ce qui finalement vous a donné un petit côté punk avec cette histoire de tigre
qui manquait à mon côté gendre idéal, absolument. Oui, oui, oui.
Du coup,
c'est la même génération qui avait eu en fin de troisième un extrait du Soleil d'Escorta et qui quelques années plus tard se retape du au bac et donc eux vraiment ils me détestent.
Je suis né libre, j'étais un enfant libre, j'étais un enfant muet mais un enfant libre, j'étais une jeune fille libre, je suis une femme libre, maintenant je suis une vieille dame libre.
Tu vas dans les salons de voiture, pourquoi il y a des pauvres filles qui sont debout toute la journée avec des hauts talons et qui attendent bêtement près de la voiture. Et tu te dis, le jour où quelqu'un va dire, je crois que ce n'est pas logique. On n'a pas encore vu avec une très vieille femme. Tiens, une très vieille femme qui tient là. Oh ben, c'est quelle bagnole, c'est celle-là, moi. Peut-être qu'un jour les modes vont changer. Et peut-être que ça fonctionnera. Peut-être qu'un jour quelqu'un va nous dire, on s'est gouré sur les codes. Merde.
Moi, j'ai vraiment une vie très, très coincée. Hein. Je ne bouge pas de chez moi. Je sors 2 heures par jour, 2 fois 1 heure pour aller au bar en bas. Donc, j'ai des engagements citoyens assez limités à un niveau très local.
Ouais.
C'est au bistrot. J'écoute les gens qui ont... Mmh. Je parle avec les gens. J'écoute. Je suis un peu le docteur Love et docteur Déprime du coin. Donc voilà, c'est mon petit engagement à un niveau vraiment très...
Non mais c'est bien, ouais. Bah donnez le nom du bar, au point où on en est.
Le bistrot Lafayette, si vous avez des problèmes, des malheurs, des chagrins, je suis là.
À quelle heure ?
De 17h à 18h et de 20h30 à 21h30.
Mais c'est vrai, très précis, ouais. C'est les créneaux extrêmement
c'est vrai,
précis.
C'est vrai.
Vous allez avoir plein de monde qui va venir, c'est énorme.
La base olympique, c'est une école olympique. Elle ne sert à rien.
C'est vulgaire ou pas ?
Oui, c'est assez... en fait, la base olympique, c'est vraiment genre, on va courir ça. Il y a comme quelque chose de, on court après son plaisir, on obtient son plaisir, bye-bye.
Et on fait des performances.
Un peu, ben, olympique, ah oui. Olympique, hein, mais il y a 3 degrés, là, tu sais, il y a le bronze, l'argent, l'or. Est-ce que vous vouliez vraiment savoir mes médailles?
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Voilà, des extraits de la librairie francophone estivale diffusée cet été et disponible en balado-diffusion, comme on dit au Québec. Avez-vous trouvé qui parle dans le public ? Jean-Philippe va s'approcher de vous, madame.
Le premier, c'est Laurent Godet.
Exactement, vous avez gagné un livre, on va vous le donner tout à l'heure. À côté de vous aussi, il y a une autre dame. Le deuxième, qui a trouvé le deuxième ?
Oui. Moi, j'ai reconnu Juliette Gréco.
C'est ça, madame, bravo, félicitations. Le troisième.
Merci.
Mademoiselle, juste devant, regarde Jean-Philippe.
Poulverde, Benoît Poulverde.
Exactement, Benoît Poulverde.
Monsieur, pour...
Monsieur, allez-y.
Marie Laberge.
Marie Laberge, bravo, félicitations. Vous pouvez l'applaudir. Et le dernier.
Guy Bedos.
Non, c'est pas Guy Bedos, c'était Michel Galabru. Voilà, félicitations à tous. Merci à vous, vous pouvez vous applaudir.
Emmanuel Kérad.
Émission spéciale depuis le festival Le Livre sur les quais à Morges en Suisse et donc en public. Amélie Nothomb est avec nous. Comme à chaque rentrée, vous publiez un nouveau roman. Vous n'avez jamais eu peur de cette récurrence, qu'elle l'agace, qu'elle lasse le public ?
J'ai affreusement peur. Je vis dans cette peur, mais il faut croire que j'aime cette peur.
Oui, c'est ça. Vous aimez vous mettre en danger un peu.
J'aime énormément ça et en plus, c'est un besoin parce que, vous savez, j'écris tout le temps. J'écris bien plus que ce que je ne publie. Et... l'immense majorité de ce que j'écris n'est jamais montré, ce qui fait que je suis seule dans mon truc et je ne sais pas si j'ai complètement perdu la raison, si j'ai complètement perdu le rapport à l'autre ou pas. Alors, une fois de temps en temps, environ tous les 3 ou 4 livres, j'éprouve le besoin d'en partager un. C'est une façon de savoir si les gens vont me suivre jusque-là.
Voilà, alors je vous avoue que le petit dernier est passionnant, vraiment, bravo Amélie. Je n'ai pas pu le lâcher jusqu'à la fin, je l'ai lu d'une traite. Marie est une jeune femme sublime, elle a 19 ans, une existence formidable l'attend. Elle va commencer sa vie dans la fête et le bonheur absolu d'être aussi belle. Ce qui lui plaît, c'est de fasciner les autres. Marie est formidable, Marie est intelligente, Marie est une garce.
C'est-à-dire que jusqu'ici, tout va bien, parce que c'est une garce inoffensive. Elle est atteinte de jalousie passive. C'est-à-dire qu'elle éprouve de la jouissance uniquement quand elle est jalousée, ce qui est un travers beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Tout va bien jusqu'au moment où elle tombe enceinte précocement sans l'avoir voulu.
À 19 ans.
À 19 ans.
Elle drague le plus beau mec de la ville.
Oui, mais pas du tout par amour, mais simplement mais pour rendre toutes les autres malades de jalousie. Voilà. Bon, patatras, elle tombe enceinte. Le gosse est là. C'est une petite fille, elle est éperdument belle. A priori, elle ne sait pas quoi éprouver pour cet enfant. En tout cas, elle n'éprouve pas d'amour maternel. Et le sentiment qui va tout de suite se greffer sur ce vide, c'est la jalousie. Elle va éprouver une jalousie féroce pour sa fille, et sa fille va grandir en devant se construire malgré la jalousie de cette mère.
Et Diane va ressentir cela au plus profond d'elle. Tout bébé, déjà, elle comprend. Et cette jalousie, elle détruit tout, elle rend malheureux tout le monde au final. Mais c'est souvent un sentiment incontrôlable, la jalousie. Vous avez été jalouse, vous, Amélie Nothomb ?
Je pense avoir été jalouse exactement une semaine dans ma vie, juste de quoi savoir de quoi il s'agissait.
C'est toujours très précis avec vous, une semaine dans votre vie.
C'était un enfer abominable. Quand j'ai éprouvé ça, je me suis dit, ma vieille, tu sors de là, parce que c'est juste pas possible.
Et c'était pourquoi ?
Oh, c'était de la jalousie amoureuse de base.
Ah ouais.
Heureusement, j'en suis sortie, mais j'avais pas mal été jalousée au cours de ma vie, et j'étais heureuse de savoir quel effet ça faisait d'être de l'autre côté de la barrière, d'être la personne qui jalouse. Et j'ai eu l'idée d'écrire le roman de la jalousie parce que c'est passionnant. C'est une maladie absurde. C'est un sentiment qui ne repose sur rien de biologique. C'est un sentiment qui détruit tout sur son passage, qui ne crée rien. Donc, et en même temps, littérairement, c'est fascinant parce que ça crée forcément une triangulation. Donc, j'ai voulu écrire le roman de la jalousie pour cette raison. Et quelle jalousie plus fascinante que celle qu'une mère peut éprouver son enfant? D'abord parce que ça existe, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Mais en plus, parce que c'est encore plus cruel. La mère, c'est la personne dont on attend la bienveillance la plus absolue, le fameux amour inconditionnel qui n'existe pas d'ailleurs. Et justement, que la jalousie soit éprouvée par la mère, ça rendait la chose encore plus cruelle.
Exactement. On va écouter le son de votre roman, Amélie Nothomb. Vous avez été la première à lire l'extrait d'un livre d'un autre. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous étiez un petit peu la marraine. Vous aviez lu Atik Raimi dans l'émission il y a 2 ans.
Oui.
On avait lancé la séquence et ça a marché. Donc on a continué. Donc cette fois, on vous fait honneur. Et quelqu'un va lire un extrait de votre roman. Aujourd'hui, c'est l'auteur japonais Akira Mizubayashi qui est juste face à vous. qui est dans un état, je ne peux pas vous décrire parce qu'elle ouvre. Qu'est-ce qui se passe ?
Mais soudain, la japonaise se réveille en moi.
Oui, c'est ça.
Et je suis en proie à la stupeur et au tremblement.
Bravo.
Bien placé. Très bien placé.
Ouais, Romain Portola, ça, vous avez vu. Alors, il a accepté de lire un extrait de Frappe-toi le cœur, ce nouveau roman paru chez Albin Michel, justement sur des battements de cœur.
Maman, j'ai tout accepté. J'ai toujours été de ton côté. Je t'ai donné raison jusque dans tes injustices les plus flagrantes. J'ai supporté ta jalousie parce que je comprenais que tu attendais davantage de l'existence. J'ai enduré que tu m'en veuilles des compliments des autres et que tu me le fasses payer. J'ai toléré que tu montres ta tendresse à mon frère alors que tu ne m'en as jamais témoigné une miette. Mais là, ce que tu fais devant moi, c'est mal. Une seule fois, tu m'as aimé, et j'ai su qu'il n'y avait rien de meilleur en ce monde. Je pensais que ce qui t'empêchait de me manifester ton amour, c'était que je sois une fille. Or, à présent, sous mes yeux, l'être que tu arroses de l'amour le plus profond que tu aies jamais manifesté, c'est une fille. Mon explication de l'univers s'écroule et je comprends que tout simplement tu m'aimes à peine, tu m'aimes si peu que tu ne penses même pas à dissimuler en rien ta passion folle pour ce bébé. La vérité, maman, c'est que s'il y a une vertu qui te manque, c'est le tact.
Akira Mizubayashi, auteur japonais francophile qui a une histoire extraordinaire. On va parler avec lui tout à l'heure de son parcours. Il a abandonné la langue japonaise pour le français. Avant ça, une réaction, Amélie Nothomb, à cette lecture.
Je suis bouleversée, vraiment. Merci infiniment. Vous lisez admirablement. Ça m'a fait beaucoup d'effet.
Merci beaucoup.
Allez, on va laisser la place au libraire. 3 ont lu votre roman. On commence par qui ? La France, la Belgique ou la Suisse ?
Comme vous voulez.
Bah non, dites-moi.
Bah, la Belgique, mon pays.
Ah bah oui, allez, Déborah Damblon en Belgique.
Alors, Madame Notton, quand je lis un de vos livres, eh bien, c'est toujours la même histoire. D'abord, ben, ce sont vos mots qui m'attrapent, parce que, waouh, hein, quelle écriture, et puis quel sens de la formule. Et puis, même dans ceux qui m'ont moins touchée, il y a toujours quelques phrases que je trouve, mais juste parfaites, et puis je les note précieusement dans un petit carnet et je les garde avec moi. Et puis ensuite, je me laisse toujours prendre par vos personnages, enfin presque chaque fois. Et puis quand je referme le roman, comme avec celui-ci, eh bien, il me reste un joli souvenir, un joli écho.
Merci.
De Bruxelles. De Bruxelles, on part à Aix-en-Provence. Mathieu Colombe pour la France.
Eh bien, moi, je trouve que déjà, ce roman, il a un titre qui claque. En plus, chose qui est assez agréable, la deuxième thématique du livre m'a paru fort intéressante parce qu'en fait, on pose une question aussi, c'est qui est la suivante. Peut-on rester humain sans amour ? Et en fait, Amélie Nothomb nous répond que oui, mais il faut une sacrée force d'esprit et un caractère d'acier. Et je dois avouer que la lecture de ce petit roman fut des plus agréables, parce que déjà le style y était parfaitement maîtrisé, et ça, ça y est pour beaucoup, et aussi parce que l'histoire en elle-même, eh ben, elle est quand même passionnante.
Très bien. Claire Renaud pour la Suisse, êtes-vous d'accord ?
Alors moi,
les yeux dans les yeux.
Moi, je suis tout à fait d'accord. D'abord, les mères, elles en prennent pour leur grade dans votre roman. Hein. Tout comme Diane, moi, je déteste cette idée qui veut qu'on sacrifie sa vie de mère si on fait une carrière. C'est quelque chose qui, voilà. Du point de vue du style, votre langue, elle est parfaite. Vous avez le sens des dialogues et des répliques. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Et pour conclure, parce que sinon je pourrais encore en dire beaucoup, je vais conclure comme Flaubert dans votre livre, la bêtise, c'est de conclure.
Merci, j'adore cette formule de Flaubert. La bêtise, c'est de conclure. C'est une formule qui peut servir au moins 10 fois par jour. Je conseille à tout le monde de l'adopter.
Non, on va être obligé de conclure à un moment.
Flûte alors.
Sinon, j'occupe toute l'antenne de toutes les radios, mais ce n'est pas possible. En tout cas, il va y avoir cette souffrance considérable parce que Marie va avoir deux autres enfants. Un garçon, tout va bien se passer parce qu'il n'y a pas de jalousie, pas de concurrence. Et puis Célia. Célia, c'est une jeune fille qui finalement est un peu moins belle que Diane. Alors, du coup, elle va la couvrir d'amour. Et Diane va rester, finalement, la mal-aimée. Elle est, comme ça, dans un registre opposé. L'une a été délaissée, abandonnée par sa mère, tandis que l'autre a eu toutes les attentions. Et vous montrez à quel point le manque d'amour maternel peut être destructeur. Être délaissé par sa mère, on ne s'en remet jamais.
C'est tout à fait vrai. J'ai beaucoup d'amis à qui c'est arrivé. Mais l'inverse est vrai aussi. On voit aussi le destin de la petite, celle qui a été trop aimée par sa mère. C'est pire. Finalement, l'amour maternel, c'est certainement une des plus belles formes d'amour qui existe, mais c'est sans doute le plus dangereux. C'est Attila. L'amour maternel, c'est Attila, d'abord parce que régulièrement, il n'existe tout simplement pas. Il ne faut surtout pas s'imaginer que l'amour maternel est automatique. Il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas aimés par leur mère. J'en connais énormément, et c'est vrai que ça donne des gens marqués. Il y a aussi tellement d'enfants qui ont été aimés par leur mère jusqu'au délire. Et ça donne des espèces de loques humaines. Hein. On se demande ce qui est mieux.
Mais en tout cas, ceux qui ont été délaissés, généralement, cachent cette blessure. C'est ce que vous expliquez.
Diane
cache la blessure toute sa vie. La seule solution serait et sera d'ailleurs d'aider les autres.
C'est ça, c'est de grandir, d'aider les autres. Et c'est vrai que les enfants qui ne sont pas aimés par leur mère le cachent parce qu'ils s'imaginent toujours que c'est de leur faute. Ils s'imaginent toujours qu'ils n'ont pas été aimés parce qu'ils ont fait quelque chose de mal.
Et cela va conditionner totalement la vie professionnelle de Diane, qui se réfugie dans le travail. Elle va côtoyer aussi d'autres jalousies, d'autres personnages destructeurs, mais elle surmonte, parce que finalement, elle est devenue plus forte. Elle a subi le pire.
Ce qui ne me tue pas me rend plus fort.
Ouais, c'est ça.
Cela dit, il y a une limite à sa force, puisqu'elle va tomber dans le piège. Une mère peut en cacher une autre. Elle rencontre cette professeure d'université qu'elle admire follement, et elle ne se rend pas compte que... Enfin, elle va devenir l'esclave de cette femme.
Oui. Frappe-toi le cœur aux éditions Albin Michel, Amélie Nothomb dans la librairie francophone ici à Morges au Festival de Livres sur les Quais. Merci Amélie.
Merci infiniment et merci monsieur.
Vous restez un petit peu avec nous ? Allez, encore un petit peu. Merci à vous. La chronique des libraires dans cette plus grande librairie du monde. Cette saison, tous ensemble pour les coups de cœur et les coups de gueule. On va commencer avec Claire Renaud. Vous avez un coup de gueule, Claire.
Oui.
Allez-y.
J'ai un coup de gueule sur toujours les mêmes. Alors vous allez me dire les mêmes qui ? Les mêmes journalistes, au même mois d'août, vont parler de la même quantité de nouveautés, de la même rentrée littéraire et au final parler toujours des mêmes auteurs phares qu'ils inviteront dans leurs mêmes émissions radio ou même chroniques littéraires. Tout cela aux dépens des premiers romans et des auteurs moins connus. Même pas vrai, Emmanuel ? Vous, qui je le reconnais, ne faites pas toujours venir les mêmes.
Ah non, la preuve en est aujourd'hui, parce qu'on n'a que des premières participations, sauf Amélie Nothomb, qui est venue 2 fois en 10 ans. Donc ça va, prenez le micro, Amélie.
Excusez-moi.
Et on ne vous avait pas vu depuis 4 ou 5 ans ici.
Mais oui, vous voyez, donc, je me fais rare.
Tout va bien. Bon, il y a Mathieu Colombe, justement, qui est un peu d'accord avec vous, et qui a un autre coup de gueule avec un auteur dont on parle beaucoup en ce moment, Mathieu.
Oui, effectivement. Moi, mon coup de gueule, en fait, va parler de Simon Liberati, qu'on voit tous les ans, au même moment, sortir un roman. Alors, ce qui est très énervant avec Simon Liberati, c'est que c'est quelqu'un qui peut faire des choses très intéressantes. Par contre, des fois, il fait des bouquins comme Les Rameaux Noirs, par exemple, pour cette rentrée littéraire. Et là, on a un concentré de tout ce que j'aime pas dans un roman de la rentrée littéraire. C'est-à-dire que le style est empoulé alors qu'il a une potentialité, mais on s'ennuie, faut bien le dire. Il y a de la culture, mais on n'est pas dans quelque chose de constructif, on est dans le démonstratif, on n'est pas dans la transmission, donc ça c'est très énervant. Et on est dans l'autocentrisme qui était quelque chose qui déjà en littérature française était insupportable dans les années 90.
D'accord.
Et qui maintenant, bah, vraiment, c'est plus possible, quoi.
Très bien.
C'est un roman de la rentrée littéraire.
Et on en parle beaucoup. Oui, Déborah Damblon en Belgique, la rentrée littéraire, justement. C'est un peu dur pour vous d'avoir abandonné ceux qui étaient sur vos rayons, que vous avez été obligé de renvoyer parce qu'il y en a de nouveaux qui arrivent.
Mais c'est pas un peu dur, Emmanuel, ça me donne juste envie de hurler et de pleurer et de me rouler par terre, parce qu'il y en a encore tellement qui sont bien, tellement que je voulais lire, tellement que je voulais découvrir et cajoler et partager, et puis voilà, j'ai dû les abandonner, parce qu'il y en a plein d'autres qui arrivent, des bons et des moins bons, comme disent mes petits camarades.
Il y en a un bon quand même, avec un roman jeunesse que vous avez relevé, que vous avez repéré.
Voilà, et ben celui-là, vous savez quoi ? Je le garde. C'est 1749 miles de Fabienne Blanchu. Et c'est basé sur un fait réel qu'elle tisse d'invention. C'est l'histoire d'amitié d'un petit garçon et d'un chimpanzé. Et à travers ça, on va découvrir l'histoire de la conquête spatiale. Formidable.
Formidable. Marie-Noëlle Blé, on termine avec vous. Et avec un coup de cœur et surtout un hommage à Régent Ducharme qui nous a quittés il y a quelques jours.
Oui, absolument. Donc, pour l'œuvre complète de Régent Ducharme, il n'y a pas d'excuse. Tous les livres sont publiés par Gallimard, donc c'est facile à trouver en Europe. Donc, ce grand écrivain aussi inespéré qu'inattendu avait fait l'effet d'une bombe en 66 avec son puissant roman La Vallée des Avalées, qui depuis n'a jamais cessé d'être lu et relu. Il y a quelques jours, le Lactum, recueil de dessins inédits de l'écrivain, est paru au Québec aux éditions du Passage. Les dessins nous rappellent à quel point il était et restera un superbe enfantôme pour qui la langue était un grandiose terrain de jeu. Lire Régent Ducharme, c'est ouvrir une porte sur l'enfance, c'est se laisser ravir quand tout nous avale, c'est laisser la langue libre, c'est aussi se rappeler que notre langue est vivante et nous avec elle.
Voilà, des pensées pour Régent Ducharme. Amélie Nothomb, vous voulez réagir?
Je ne savais pas qu'il était mort, vous me l'apprenez, ça me fait infiniment de chagrin.
Régent Ducharme, grand auteur qu'il faut lire absolument. Merci beaucoup Marie-Noëlle.
La librairie francophone... Emmanuel Kérad.
La librairie francophone avec Romain Puertolas, Céline Zuffré, Amélie Nothomb et Akira Mizubayashi. On dresse le portrait de cet écrivain japonais francophile au parcours exceptionnel. Il a délaissé sa langue maternelle pour investir pleinement la langue française et ses ouvrages, essais et romans sont magistraux. On poursuit ces échanges dans quelques instants après le groupe sénégalais Touré Kounda et son tube Emma dans la librairie francophone.
Ona ga jangi kewana
kabu dangin tu
oga
Le groupe Touré Kunda avec Emma, le plus gros tube du groupe qui date de 1979 sur ici Radio Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Akira Mizubayashi est dans la librairie cette semaine. Émission spéciale depuis le festival du livre sur les quais au bord du lac Léman et en public avec un public nombreux toujours aujourd'hui qui nous accompagne. Merci d'être là, vraiment fidèle à la librairie francophone depuis toutes ces années. On est toujours très touchés. Bonjour Akira, rebonjour.
Bonjour.
Vous êtes un professeur japonais de français, auteur d'une langue venue d'ailleurs, paru aux éditions Gallimard et préfacé par Daniel Pénac. Vous avez aussi publié un roman, Un amour de mille ans au printemps, et aussi un essai sur l'errance, petit éloge de l'errance. Faut-il errer pour s'approprier une langue ?
Oui, je crois que c'est une condition absolument nécessaire quand on n'est pas tellement, pas totalement satisfait de ce qu'on fait dans son pays.
Ouais.
On part à la découverte de quelque chose qu'on ne connaît pas et il faut absolument errer. Oui.
Et alors vous racontez comment vous avez découvert le français dans ce livre, une langue venue d'ailleurs. Comment vous en avez fait aussi l'une de vos langues ? Vous dites que le français vous a offert la possibilité de recommencer votre vie.
Oui, il se trouve que j'étais pas tellement à l'aise dans ma propre langue. C'est dû certainement au contexte politique et social qui est extrêmement houleuse et difficile au Japon. J'avais à l'époque 17 ans, 18 ans, et j'avais soif de partir ailleurs. Et,
oui.
Et un jour, je suis tombé sur un texte japonais écrit par un philosophe japonais qui parlait et de la langue française et de la culture française. Et je suis parti avec lui, un peu sous sa direction. Et c'est comme ça que j'ai quitté momentanément la langue japonaise et le Japon.
Alors vous écoutez les leçons de français à la Radio Nationale. Il y a Jean-Jacques Rousseau aussi, citoyen suisse, qui devient votre modèle absolu. Et en 73, vous partez à Montpellier avec une bourse d'études. Et la veille du départ, vous avez une poussée de fièvre.
Oui.
C'était quoi ? C'était l'angoisse ?
Ah ça, je ne sais pas. J'ai été vraiment très malade. C'était mon premier départ pour l'étranger, mon premier voyage en avion. Je n'avais jamais pris d'avion jusque-là. Et tout d'un coup, je suis tombé malade. J'avais une forte poussée de fièvre qui m'a obligé à rester au lit comme ça pendant une journée entière. Et c'est là que j'ai écouté Les Noces de Figaro.
Oui. Et à la cité universitaire, quand vous arrivez, vous êtes un peu en décalage avec les autres étudiants parce que vous avez appris la langue avec les textes de Rousseau.
Oui.
Alors, la littérature du XVIIIe siècle. Et du coup, vous parlez d'une façon un peu surannée, avec un certain manque de naturel. On vous regarde un peu bizarrement.
Oui, c'est ce qu'on m'a fait remarquer. Je suis allé voir le directeur du centre de formation pédagogique pour lui dire que voilà, j'ai appris le français dans et à travers la littérature. Donc ce qui me manque, c'est vraiment le français dans sa diversité la plus totale. Alors voilà, donc il m'a conseillé d'aller... il m'a fait une liste de cours à suivre. Et c'est comme ça que voilà, je suis devenu un habitant et de Montpellier et de la langue française de Montpellier.
Exactement, vous parlez la langue française d'une façon vraiment remarquable, hein, c'est absolument incroyable. Alors il y a ce roman Un amour de mille ans que je montre au public, qui est publié aux éditions Gallimard, roman qui est sorti au printemps, dans lequel il est question d'une grande histoire d'amour. Vous parlez évidemment du Japon, de l'exil aussi, et puis vous parlez de la musique. C'est très important cette musique,
oui.
Elle est tout le temps présente avec vous.
Oui, c'est un livre qui tourne autour des Noces de Figaro et j'ai voulu parler de ce miracle littéraire et musical que sont les Noces de Figaro, mais pour en parler, j'ai recours au genre romanesque. Ouais. Je voulais bâtir une histoire d'amour incroyable sur cet opéra. Voilà.
On va revenir aussi sur la catastrophe de Fukushima parce que ça parsème aussi votre œuvre.
Oui.
Vous avez un discours très honnête, très droit, très dur. On va laisser la parole quand même juste avant au Canada à Marie-Noël Blé qui a lu votre roman justement Un amour de mille ans. Marie-Noël, qu'en avez-vous pensé ?
Quelle lecture délicieuse. J'ai été fascinée par la lenteur contemplative du récit construit en quatre actes. Qui est traversée de part en part par les cultures françaises et japonaises, par deux amours aussi, mais aussi et surtout par la littérature et les opéras de Mozart.
Même pour les néophytes qu'on peut être, on se laisse agréablement bercer par les airs des Noces de Figaro. Peut-être un peu trop abondamment analysé de mon goût, mais vraiment passionnant, ceci dit. J'ai particulièrement aimé la réflexion sur le français comme langue de l'amitié, de l'épanchement. Et c'est bel et bien un roman de l'épanchement dont il est question pour amateurs d'opéra, de douceur et d'histoire d'amour.
Ça a l'air de vous convenir, tout va bien.
Tout à fait.
À propos de la catastrophe nucléaire de Fukushima, vous dites être étonné de voir que le Japon non seulement ne tire aucune leçon de ce drame, mais qu'il minimise, qu'il dissimule même la catastrophe sanitaire. Alors il y a les Jeux Olympiques en 2020. Tokyo accueille les Jeux Olympiques, donc il faut atténuer le souvenir de Fukushima. Est-ce que c'est un crime de faire croire aux nations du monde qu'elles ne craignent rien au Japon ?
Oui, je ne sais pas si le mot crime convient à la situation, mais en tout cas, le Japon a vécu la catastrophe de Fukushima, le mot n'est pas trop fort, de façon extrêmement douloureuse, et le Japon continue à vivre l'après Fukushima de façon extrêmement douloureuse. La situation est très grave, parce que on parle beaucoup de contamination et de décontamination, et je crois qu'il y a une situation très grave qui montre que c'est non seulement la mer et la terre qui sont contaminées, c'est la langue et les esprits qui sont contaminés. Donc il y a tout un travail de décontamination à faire au niveau de la langue, au niveau des esprits.
Est-ce qu'il y a un risque, Akira Mizubayashi, que le pays soit anéanti à court terme par cette contamination radioactive des aliments, comme vous le dites, de l'eau, des terres? Est-ce que c'est cela la vérité?
Alors, je crois que les experts disent que, pour le moment, la progression est stoppée. Et évidemment, quelques jours après la catastrophe qui a éclaté le 11 mars 2011, le Premier ministre de l'époque a eu vraiment peur parce qu'il était fort possible que la moitié nord du Japon soit condamné. Bon, on a évité le pire, mais on est dans un processus qui n'a pas de fin, qui est immaîtrisable. Donc, les Jeux Olympiques cachent énormément de choses. J'aimerais bien qu'il y ait des protestations un peu partout dans le monde pour attirer l'attention sur ce fait-là.
Romain Puertolas vous écoute avec beaucoup d'attention. Vous connaissez le Japon, Romain ? Vous êtes déjà allé là-bas ?
Non, je ne suis jamais allé là-bas. J'ai la chance d'être traduit en japonais. La petite anecdote, c'est que mon traducteur japonais vit à Paris. C'est assez amusant. je n'ai pas eu la chance d'aller là-bas encore. J'aimerais beaucoup.
Vous êtes conscient, Akira, que le discours que vous tenez au Japon est une trahison pour la nation. Vous l'expliquez d'ailleurs dans votre livre. On pourrait vous dire que vous n'êtes plus digne d'être japonais. Quelle est la nature du risque que vous prenez en vous exprimant comme ça à l'étranger ?
C'est pas uniquement à l'étranger que je m'exprime. J'ai publié un livre l'année dernière justement pour m'ériger contre la situation actuelle, en mesurant la gravité de la situation. Et c'est vrai que tout le monde ne parle pas comme moi, et je prends le risque d'être taxé, d'accusé d'antinational. Mais je crois que le rôle des intellectuels, des professeurs et des artistes, des créateurs, c'est justement critiquer ce qui ne va pas dans son pays. Et je n'ai pas l'impression, je risque d'être traité de traître,
oui.
Mais pas du tout, c'est une sorte d'expression de mon amour pour ce pays. Je ne risque rien pour le moment, mais il y a de plus en plus de lois qui passent. Tout récemment, il y a quelques mois, il y a une loi extrêmement dangereuse qui est passée, une loi qu'on appelle loi anticonspiration. Par exemple, si vous vous réunissez 3 ou 4 pour discuter sur ce qui ne va pas dans le pays,
vous êtes condamné, oui.
Il y a un risque de délation, des choses comme ça.
Le mot de la fin, c'est pour un libraire dans cette émission, Akira Mizubayashi. Il y a Mathieu Colombe en France qui a lu l'un de vos essais avec le petit éloge de l'errance. Mathieu Colombe, c'est à vous l'honneur.
J'aimerais bien revenir en fait sur ce côté musical dont vous parliez tout à l'heure, parce que lire Akira Mizubayashi, c'est quand même une expérience assez singulière, parce qu'il y a vraiment une réelle musicalité dans sa manière d'écrire, dans son approche de la langue. Chaque mot est soigneusement pesé avant d'être intégré dans la moindre phrase, et le résultat est absolument magnifique. Donc c'est tant mieux. Et en plus, tant dans ses romans que dans ses essais, il délivre un message qui est en fait assez simple, puisqu'il nous conseille de nous délivrer du superflu pour nous consacrer à l'essentiel, à savoir notre émotivité, notre aptitude à aimer et notre sens de l'esthétique. Moi, j'adhère.
Vous avez séduit nos libraires, Akira. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Akira Mizubayashi.
Merci beaucoup.
Merci à vous d'être venu ici depuis le Japon.
Merci.
Petit éloge de l'errance, paru en poche chez Folio, à un tout petit prix, 2 euros, 2 francs suisses ou 2-3 dollars. Une langue venue d'ailleurs, c'est aussi chez Folio. Et votre roman, Un amour de Milan, est sorti au printemps chez Gallimard. Merci à Kira, merci à vous. Merci au Festival de Morges aussi de nous avoir accueillis ici. Merci beaucoup.
La librairie francophone, Emmanuel Guérard.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le français Eddy de Préto et un extrait de son premier album.
Tu sais, tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. J'ai côtoyé du rare nymphe, pris des rails en avance dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance. Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables et zélé des amants, des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade a fait fuir lentement par sa froideur maussade. Alors j'ai rempli ma panse avec de vives urgences, autant vives que ivres. Sur la piste de danse, j'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents. Sur la piste d'argent, c'est la fête de trop. Moi je l'ai faite et faite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Tu sais, ce soir j'ai lu dans mon corps relâché le manuel torturé de cette danse exaltée. J'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses, dans de tout petits angles où l'on voit que les muqueuses. Puis là, je suis rentré bel et bien les mains nues, avec cet air déjà vu et l'envie de surplus. J'ai rien trouvé de précis, excepté d'apparence, exactement même si demain tout recommence. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, défaite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, défaite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Danse.
Eddy de Préto, Fête de trop, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous à la réalisation Henri-Marc Mutel et Christophe Imbert en France, avec Jérôme Nussbaum et Thierry Gadechet ici en Suisse. Un grand merci aux équipes techniques de la RTS. Grand merci aussi au public de Morges qui était avec nous aujourd'hui tout au long de cette émission. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère alias Chris Mage en France, Martine Béguin-Follet et Annick Chouin en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. Merci pour votre fidélité. La semaine prochaine, nous parlerons de la condition animale avec Jean-Baptiste Delamo. Nous recevrons l'haïtien James Noël et la française Joyce Ormand. Je vous souhaite à tous la meilleure entrée possible, plein de courage et de réussite. Merci Morges, merci beaucoup, à bientôt.